Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. J'appartiens à une époque alimentaire antérieure, fondée sur les faibles quantités et le manque de variété. Il m'est resté dans la bouche un palais fruste, capable de distinguer le bon du mauvais, mais pauvre en nuances intermédiaires. J'ai des papilles du XXe siècle. Voilà ce qu'écrit notre invité dans un livre fait de récits de saveurs familières. Il n'est ni un cuoco, un cuisinier professionnel, ni même un grand gourmet, il le reconnaît. Il n'est pas non plus un artisan de bouche, il n'a rien à voir avec les métiers de l'alimentation. Son métier, c'est romancier, poète, traducteur, il est aussi marcheur et homme engagé. Et pourtant, il fait paraître un livre savoureux, dans lequel il se raconte, à travers des souvenirs de cuisine, de plats et de repas. Ces récits de saveurs familières nous ont donné envie de le recevoir dans notre collection de portraits culinaires intitulée « Dans la cuisine de ». Alors après Chantal Thomas, Alberto Manguel, Muriel Barbery, Benoît Peters et Hervé Letellier, c'est aujourd'hui Eri De Luca qui va nous dévoiler ses réflexions de mangeur. Eri De Luca, bonjour.
Bonjour, merci de l'invitation.
C'est un grand plaisir et un grand honneur de vous recevoir autour de cette table des bonnes choses. C'est un drôle de petit livre que vous nous proposez, parce que c'est un livre qui est plein de souvenirs, plein de réflexions sur la nourriture, le partage, les plats de votre enfance, ce qu'on mange quand, et que vous mangez surtout quand vous faites de l'alpinisme, le pain que s'échangeaient les ouvriers avec qui vous travailliez quand vous étiez jeune, les pâtes au ragoût de votre grand-mère. Chaque chapitre est suivi de conseils et de recommandations d'un ami nutritionniste à vous, c'est très important d'ailleurs, et ils sont très justes et très pertinents ces conseils. Et à la fin, évidemment, quand même, il y a quelques recettes. Mais ce qui est surprenant, Eri De Luca, c'est que quand on referme ce petit livre, on se dit « Eri De Luca, il n'a pas l'air d'être un gros gourmand ». C'est d'ailleurs vous qui l'écrivez, vous dites « Je ne suis pas un gourmet, de mes cinq sens, le goût est le moins éveillé ». Alors il y a une question rituelle pour commencer cette émission dans la collection « Dans la cuisine 2 ». Quel mangeur êtes-vous, Eri De Luca ?
Je suis un modeste consommateur. J'ai même obéi à tous les trois repas, je n'en fais que deux.
Le matin et le soir ?
Le matin et le soir, donc... Et en vieillissant, je discipline davantage mon alimentation.
Donc ça s'arrange pas, vous mangez de moins en moins. C'est ça?
En faisant des expériments de soustraction.
C'est ça. Attention, il va pas rester grand monde si vous continuez comme ça. Vous écrivez « J'appartiens à une époque alimentaire antérieure, fondée sur les faibles quantités et le manque de variété. Il m'est resté dans la bouche un palais fruste, capable de distinguer le bon du mauvais, mais pauvre en nuances intermédiaires. » J'ai des papilles du XXe siècle. J'aime énormément cette phrase, j'ai des papilles du XXe siècle. Mais ça veut dire quoi?
Déjà que c'était quelque chose de manger régulièrement, et on mangeait toujours les mêmes choses. Donc les papilles se sont réduites à goûter les peu de choses qu'on arrivait à la table. Donc sont restées comme ça, des papilles qui ne comprennent rien de toutes les nuances nouvelles que j'écoute dans la description des nourritures et que je prends comme une grande capacité d'imagination des autres, parce que pour moi ne correspond à rien. Même dans la dégustation des vins, non, mais je suis nul complet. Je n'ai jamais entendu l'amande, que sais-je, le sandal. Il y a un mot où on parle de sandal. Le sandal, je l'ai eu au pied, mais ça n'a rien à voir avec le vin.
Vous écrivez aussi, alors il faut dire que vous avez grandi, vous êtes né en 1950, vous avez grandi dans le Naples des années 50, et le Naples des années 50 n'était pas un Naples abondant. La première chose, et c'est peut-être pas pour rien que le premier chapitre de votre ouvrage, c'est sur le jeûne, c'est sur la privation, c'est sur la faim, c'est d'abord des souvenirs liés au manque d'abondance, qui est vraiment une différence avec aujourd'hui sans doute.
Oui, c'est le manque de nourriture qui était... typique de la ville et de l'époque. Après, on a commencé à avoir plus de disponibilité alimentaire. Mais quand j'étais enfant, non. Alors, il y avait une distinction entre l'expression « j'ai faim » et l'expression « j'ai appétit ». Maintenant, on peut dire à la même manière, non. « J'ai faim, j'ai appétit », ça ne change rien. Et à l'époque, ça changeait beaucoup. parce que la femme, c'était la plus grande mortification et humiliation du corps humain et de la civilisation d'un endroit. La femme a été la force motrice des déportations des êtres humains d'un continent à l'autre pour essayer de survivre. Donc, ça n'avait rien à voir avec l'appétit.
Dans cette mer d'immeubles en béton, où le trafic automobile se bloque tous les jours de 6 à 8 heures du soir, parce qu'il y a trop de voitures pour des rues trop étroites, faut-il que pour un quart de la population napolitaine, la seule alternative à la mort demeure une faim qu'un plat de pâtes ou un morceau de pain ne peuvent plus assouvir.
Oddio sarà te luna, vita speranza di mia, io saluto.
Vous dites aussi, Eri De Luca, que la table de votre enfance était sévère. Sévère, c'est le mot que vous utilisez.
Il y avait des lois,
des règles très strictes.
Des règles de tenue à la table, les règles de manger tout ce qu'il y avait dans le plat, la règle de se lever quand on avait le permis de se lever. C'était une éducation à se tenir à la table.
Et puis en plus, c'est une époque où on obligeait les enfants, dans beaucoup de familles, à avaler avant le repas une cuillère d'huile de foie de morue. Et ça, ça n'a pas laissé que des bons souvenirs. Hein.
Non, mais c'était la conviction de l'époque que ça faisait du bien. Mais peut-être faisait du bien, mais pas à l'appétit.
Ouais, et en tous les cas, au papy non plus.
Gâchait complètement le désir de manger.
Vous dites aussi qu'une des grandes différences avec aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, peut-être parce que justement on n'avait pas énormément à manger, on croquait à pleines dents, on finissait les assiettes, alors qu'aujourd'hui, on mâchait énergiquement, écrivez-vous, alors qu'aujourd'hui, on picore beaucoup, d'ailleurs on grignote aussi entre les repas. Ça, c'est une grande différence avec l'époque dans laquelle vous avez grandi.
Si. On mangeait, on vidait le plat vite, parce que c'était ça la manière de manger. On mangeait des grands bouchons, et on mastiquait.
On en mettait plein la bouche.
On mâchait, bon. Et aussi pour le vin, non? J'ai connu les tables des ouvriers quand j'étais avec eux. Et donc, si quelqu'un avait du vin à verser, le verre doit être rempli jusqu'au bout.
Jusqu'à rare bord.
À rare bord. Et aujourd'hui, on met 2-3 gouttes on met un fond de vin dans le verre, donc c'est. À l'époque, c'était comme une offense. C'était un manque de générosité, donc c'était comme ça. Et alors, je suis curieux de la nouvelle manière de nourriture, de cette espèce de religion nouvelle de la nourriture. Au lieu de cuisiniers, il y a des sacerdotes de la cuisine. Ce sont des spécialités. Mais arriver d'aller manger une fois dans un resto de ceux qui sont les étoiles, non?
Un restaurant gastronomique étoilé, oui.
Les étoiles. Il y avait quelque chose qui m'avait. Que mon estomac n'était pas capable de reconnaître.
Mais malgré tout, Eri De Luca, est-ce que vous vous souvenez du premier choc de vos papilles, du premier choc, si vous en avez vu un, hein, du plaisir de manger?
Le lait. Le lait que je n'ai pas eu de ma mère, parce que ma mère ne pouvait pas m'allaiter. Et alors, c'était un souvenir sur l'île d'Ischia, l'été. Et avec la main de ma mère, on descendait dans la rouelle, avec un seau en fer, et passait un berger qui tirait le lait directement des mamelles de la vache dans le seau. Et on allait dans la maison, on faisait bouillir le lait. Et il y avait l'odeur de ce lait et de la panne, non, de la crème qui montait là. Ça, c'est l'odeur qui, encore, je peux préciser. J'ai plus trouvé Sauf à grande distance d'années, je me suis trouvé dans un, chez un ami dans la montagne et lui m'a amené à manger des, chez une famille qui avait des, de la vache. Alors ils ont tiré le lait de la vache pour nous le offrir, sans faire le faire bouillir cette fois. Et j'ai bu à distance d'un demi-siècle ce lait frais de la vache et j'ai eu une impossibilité de digestion. On s'est promené pour quelques heures et à la fin, pour soulager, on a décidé de prendre une belle bouteille de vin pour...
Pour compenser.
Pour compenser.
C'est ça, pas trop, hein. Vous savez qu'il faut consommer avec modération.
Non, j'ai beaucoup exagéré, mais maintenant j'ai une discipline différente.
Qui étaient Eri De Luca, Emma et Lilina?
Emma était ma grand-mère et Lilina est ma tante. Et elle faisait cet exercice de sanctification du repas du dimanche, qui était le ragoût, qui commençait à être cuisiné le soir du vendredi. On commençait à mettre dans le soir du vendredi ces morceaux de viande, qui étaient des morceaux de viande d'écart. Ce n'étaient pas les bons morceaux, les bonnes pièces, les bons bouts de viande. Et avec de la sauce, et sous une flamelle, une petite flamme qui était comme celle d'une chandelle, et il passait, il se donnait le tour pour toute la nuit pour faire attacher, et tourner pour pas faire attacher sur le sol de la poêle
la sauce. Ouais, la sauce.
Et en ajoutant un peu d'eau, un peu de vin, toute la nuit comme ça, pour deux nuits. Alors le dimanche, quand j'arrivais à la table, déjà à l'extérieur, déjà dans le rez-de-chaussée, il y avait ce parfum enivrant du ragoût. Et après on entrait, c'est tous les bavardages, les salutations, c'est, mais quand commençait à être servi le ragoût à la table, alors il y avait le silence de l'église. Tout le monde manger en silence, moi aussi avec les yeux fermés, pour encore mieux me concentrer sur la nourriture que, miraculeuse qui était celle du ragoût.
C'est un deuxième bon souvenir. Alors, c'est des pâtes au ragoût.
Des pâtes au ragoût, des pâtes grosses.
C'est un peu votre madeleine, vous diriez, les pâtes au ragoût?
Pour moi, c'est, le souvenir, c'est une réanimation des personnes qui étaient là présentes. Alors là, à cette table-là, on était tous là, il n'y avait pas d'absent. Et donc c'est aussi une visite dans le passé où étions tous présents.
Vous dites, Eri De Luca, aussi que vous mangez beaucoup dans ces dimanches les pâtes au ragoût en silence, parce que vous dégustiez ces pâtes qui avaient mijoté pendant deux jours. Et pourtant, dans votre récit, dans vos récits de saveurs familières, il y a des lieux où vous dites, c'est moins le silence que le partage, la sociabilité qui s'exerce, qui s'exprime. Et ces lieux, c'est des lieux que vous avez fréquentés alors pas enfant, mais plus jeune, dans les années 70, des lieux que vous appelez les maisons du peuple, où chaque client avait un surnom, c'était les tavernes.
Tavernes, c'est le osterie, on dit en
osterie en italien. Ces tavernes, alors vous, vous aviez comme surnom la fouine.
Oui.
Pourquoi la fouine?
Parce que je mangeais toujours du poulet bouilli ou des œufs.
Vous aimez bien les œufs?
Oui, si, si, si.
Toujours, vous aimez bien
si,
les œufs.
Si, si, si.
Et ça ressemblait à quoi, ces tavernes?
C'était tout simple, de la table avec du papier sur la table et on tirait du vin directement d'une amphore.
Qu'est-ce qu'on mangeait? Qu'est-ce que vous mangiez?
Moi, je mangeais toujours la même chose.
Alors quoi?
Oui, ça veut dire le poulet bouilli.
C'était toujours du poulet bouilli pour vous?
Oui, c'est pour moi. C'est pour ça qu'il m'appelait comme ça, l'hôte.
Ce qui est aussi très savoureux dans votre livre, Eri De Luca, c'est qu'on navigue à travers les différentes époques et en lisant votre livre, on a vraiment, et c'est l'idée de ces portraits culinaires, on a vraiment une idée non seulement de ce que vous mangiez enfant et de ce que vous mangiez jeune et de ce que vous mangez aujourd'hui, mais de la façon dont vous les mangez. Et donc, aussi une certaine idée de votre personnalité à travers ce rapport à la nourriture qui est le vôtre. On navigue dans votre enfance à Naples, votre vie d'ouvrier à Turin, on vous voit lors de vos engagements en Bosnie, on vous voit quand vous marchez en montagne, puisque vous êtes un montagnard, on vous suit en voyage. Mais d'ailleurs, j'aimerais bien savoir ce que vous mangez quand vous partez en montagne. Qu'est-ce que vous emportez avec vous ?
Rien.
Vous mangez rien quand vous marchez ?
Non. Non, non.
Mais c'est pas possible. Il faut se nourrir.
Non, 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 j'amène rien. Et si je fais des parcours sur des parois nord, même pas l'eau.
Même pas de l'eau ?
Même pas de l'eau.
Et vous avez plus de force ?
Parce que je mange le matin et après le soir. J'ai pas besoin de manger pendant la journée.
Et le matin, vous mangez quoi ?
Je mange des œufs.
Toujours des œufs ?
De fruits, ou orange ou pamplemousse, et du café avec du miel.
Votre ami nutritionniste, qui écrit donc après chacun de vos chapitres de souvenirs des petits textes sur les recommandations en matière de nourriture liées à vos souvenirs et à vos plats, dit que justement, pendant longtemps, on a pensé qu'il fallait pas manger trop d'œufs, mais que c'est très bon de manger des œufs, qu'on peut même manger un œuf par jour, sauf si on a des impossibilités ou des contre-indications, mais on peut manger un œuf par jour. Vous les aimez comment, vos œufs ?
Ah, je les bois.
Comment ça, vous les buvez ? Cru ?
Cru. Ah, c'est vite fait. Hein.
Ah oui, ça c'est vite fait. C'est important de manger vite ?
Non. Non, non, mais...
Quand vous mangez le soir, vous prenez votre temps, par exemple ? Vous vous asseyez à table ?
Oui, je me prépare la table. J'habite seul, j'habite à la campagne, c'est seul, donc je me cuisine. J'ai un cheminée, c'est pendant l'hiver, et je cuisine sur la cheminée. Et si.
Vous asseyez, prenez le temps.
Si, je fais le temps. Je ne bois pas du vin si je suis seul. Pour le vin, il faut quelqu'un. Sinon, ça va bien comme ça. Mais je mange très tôt.
18h30 ?
18h30, si. Je vais coucher très tôt, c'est tout un autre fuse horaire.
Éric De Luca, romancier, poète, traducteur, escaladeur, grimpeur, montagnard, je ne sais pas comment vous le dites. Quel mot vous aimez utiliser en français pour dire vous êtes un marcheur en montagne ?
Je me dis que je suis quelqu'un qui pratique l'alpinisme.
Alpiniste. Alpiniste est avec nous aujourd'hui pour ses récits de saveurs familières dans Les Bonnes Choses sur France Culture.
Ricetta per fare dei buoni gnocchi. Bisogna utilizzare delle patate rosse. Questo è uno dei segreti. L'altro segreto è che bisogna integrare la farina di grano nella purè di patate quando la purè di patate è ancora molto calda. Quindi pelate e sbucciate le patate, fatele bollire. Quando sono pronte usate uno schiacciapatate per schiacciarlo e non uno di quei cose che si girano perché sennò si raffredda il purè. Dopodiché integrate la farina di grano insieme al purè in ragione di un terzo di farina ogni due terzi di purè. Se per esempio avete un chilo di patate, metterete 300 grammi di farina. Bisogna integrarla e fare l'impasto mentre il purè è ancora molto caldo, quasi che vi brucia le mani. Non proprio che vi brucia, ma insomma quando è molto caldo.
L'avez-vous reconnu, Éric De Luca ?
Oui, mais je le reconnais, mais c'était mon frère ami,
Gian Maria Testa,
avec lequel on a fait beaucoup de soirées ensemble sur les scènes, en Italie aussi, en France, ils sont venus souvent. On était amis et frères parce qu'on se trouvait volontiers avant la scène, pendant la scène et après la scène.
Et est-ce que vous mangez des gnocchis, puisqu'il là, il nous donne la recette, un morceau de la recette des gnocchis.
Non.
Vous aimez ça, les gnocchis ?
Non, mais je l'ai convaincu à manger avant de monter sur scène. Et parce que normalement, les artistes mangent après, non ? Non, ils mangent après. Et alors, il a reconnu que manger avant, c'était mieux. Parce que c'est comme ça, il pouvait digérer et aller se coucher après la scène, le spectacle, sans prolonger la soirée. Je lui ai été utile pour ça.
Est-ce que vous mangez toujours avec les doigts?
Oui, j'ai besoin de les doigts. Si. Je ne suis pas trop bien élevé. J'ai été
alors
très bien
vous...
élevé.
Oui, alors que vous avez reçu une éducation stricte, vous nous l'avez dit.
Si. Après, mais bah, quand je suis seul, je suis un peu plus sauvage.
Un petit peu comme dans cette scène culte d'un film de 1954 qu'on écoute.
Ingaggio. Io sognavo il padre della ballerina, il cuoco.
È messo? Scusate tanto, ma stamattina andando via ho dimenticato i guanti.
Eccoli!
Sì. Grazie tante.
Buonasera.
Buongiorno. Scusate! Ma che sta facendo?
Non abbiamo appetito e facciamo quattro salti.
Volevo dirvi che io in questa casa non ci vengo più.
Vous l'avez reconnu évidemment, extrait de Miseria e nobiltà, pardon pour l'accent, de Mario Mattoli. En français, c'est Misère et noblesse, film de 1954 avec la légende du cinéma comique napolitain de l'époque Toto. Et Sophia Loren. Et alors là, c'est une scène très visuelle, mais vous savez ce qui se passe, vous la connaissez par cœur. Qu'est-ce qui se passe dans cette scène qu'on vient d'entendre?
C'est la scène d'une manque de nourriture totale. Et là, le fait que le manque de nourriture totale puisse être comique est une forme d'exorcisme napolitain que j'ai toujours admiré, mais en le considérant incompréhensible pour moi. Parce que c'était une tragédie et pas une comicité. Mais la masque officielle napolitaine, Polichinelle, est exactement le mort de faim. Celui qui a toujours besoin d'un seul. Alors toute cette famille qui n'arrive pas, ne mange depuis des jours, tout à un moment arrive toute une abondance sur la table. Et alors il commence à faire une danse de l'abondance. Il prend des spaghettis avec les mains, il se les met dans les poches et commence à danser autour de cette. Et il arrive. Arrive que le chef revient pour faire encore quelque chose. Il faut enfin de jouer et d'être...
Et au milieu, il y a la soupière remplie de spaghettis à la tomate. Vraiment, c'est une grosse soupière de... Je dis une soupière, c'est un plat de pâtes de spaghettis. Et ils s'en mettent plein les mains. Ils le mettent dans la bouche, ils s'en mettent partout, ils en ont partout. Et ils dansent autour de la table. C'est la danse de la spaghetti, puisque... Alors, à cette époque, effectivement, tout ce qui est nourriture est un luxe inaccessible, mais en même temps fantasmatique. C'est pour ça que le chef, celui qu'on appelle le chef, le cuisinier, arrive en blanc avec sa toque, comme une espèce d'image mythologique presque. Et qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Vous aimez beaucoup cette phrase de Toto.
Parce qu'il n'y avait pas le mot chef. Celui qui cuisinait pour des familles, pour des grandes familles nobilières, alors on l'appelait Monzu. Monzu, ça veut dire monsieur, monzu. Mais sinon, il avait le cuoco. Alors le cuoco, le chef, le cuoco, c'est quelqu'un qui était dans la cuisine, donc qui était toujours bien nourri. Alors Toto dit, un bon mot, dit, cuoco, que belle parole, que bel mot, cuoco.
Est-ce que ça vous ferait plaisir qu'on vous la mette dans l'oreille?
Oui, ça me plaît.
Alors on y va.
La ballerina, carina.
Et io me la voglio sposare.
Se la vuole sposare.
Se la vuole sposare.
E se la sposi?
Lo so, ma i miei non vogliono. La ragazza è figlia di un cuoco, di un certo Gaetano Semolone. Sapete quel cuoco che ha ereditato i soldi dal padrone?
Cuoco.
Che bella parola. Cuoco.
Certo, capisco che i vostri nobili parenti si oppongono. Sposare una ballerina, figlia di cuoco.
Sposatevi il cuoco.
Non scherzare, Felice.
No, dico sul serio.
Io me la sposo lo stesso.
Voilà, l'extrait de ce film Misère et noblesse, miseria e nobiltà.
Si, miseria e nobiltà.
Avec Toto, légende donc du cinéma comique napolitain. Pour terminer cette émission, Éric De Luca, et comme vous le faites dans vos récits de saveurs familières grâce aux recettes de Emma et Nina, j'aimerais bien que vous nous donniez quelques-uns de vos plats favoris. Alors, il y en a un qui est, que vous présentez comme votre plat préféré, en tout cas jusqu'à la mort de votre mère, qui est la parmigiana d'aubergine.
La parmigiana d'aubergine.
Vous précisez que la parmigiana d'aubergine, il faut la cuire en trois feux.
Trois feux.
Lesquels?
Le premier feu, c'est quand on coupe les tranches, on les met à sécher au soleil. Premier feu. Après, on les met dans l'huile de la poêle.
Pour les frire.
Le deuxième feu. E quando on monte avec les couches dans la poêle, dans les couches avec le parmesan et le basilic, et le 13e feu est le four. Et à la fin de ces trois feux, la parmesane, pour moi, doit encore attendre de se reposer, parce que ça s'imprègne plus profondément. Et ma mère me la faisait trouver tous les moments que je partais et que je revenais. Même si c'était un seul jour, je trouvais la parmesane de Mélenzin. Donc c'était quelque chose qui regardait nous deux. Et le moment qu'elle est morte, est morte aussi la parmesane de Mélenzin. Parce que je pense que le deuil se pratique à la table et pas au cimetière.
Un grand merci, Hervé de Bouca, d'être venu nous parler de votre rapport à la nourriture, à la cuisine. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire et qu'on peut lire dans les récits de saveurs familières, notamment les voyages, notamment les engagements que vous avez fait. On vous suit aussi en Bosnie, on vous suit à Belgrade, où vous dites que c'est là que vous avez mangé les meilleures pâtes au pesto. Mm-hmm. Chose assez étonnante, mais voilà, c'est ce que vous écrivez. Mm-hmm. Il y aurait beaucoup de choses, votre rapport à l'ail, etc., etc. Merci beaucoup d'être venu, on va se quitter, puisque vous l'avez évoqué au début de cette émission, le ragoût, les pâtes au ragoût. On va se quitter avec le groupe Musica Nuda, Ziti al ragoût.
Per il ragù,
800 g di lacerto di manzo,
50 g di prosciutto,
70 g di pancetta,
mezza cipolla,
aglio,
prezzemolo,
vino rosso secco,
2 decilitri di olio extravergine di oliva,
200 g di concentrato di pomodori,
sale,
pepe.
Per il ripieno,
200 g di carne macinata,
250 g di ricotta,
mezza cipolla,
parmigiano grattugiato,
salvia,
maggiorana,
timo,
un uovo,
vino bianco secco,
olio d'oliva extravergine,
sale,
pepe.
Preparazione.
Fate soffriggere in una padella aglio,
cipolla,
pancetta
e prosciutto
e aggiungetevi la carne.
Irrorate con il vino rosso e quando sarà sfumato
mettete i pomodori e lasciate cuocere.
Per il ripieno
soffriggere in olio ben caldo la cipolla.
Peut-être d'ailleurs mettrons-nous la recette de la parmigiana d'aubergine sur notre site internet pour nos auditeurs et nos auditrices qui auraient envie de la faire. Vous seriez d'accord?
Oui, d'accord.
Eh bien, merci beaucoup. Alors, ces récits de saveurs familières sont avec les commentaires de Valerio Galasso, nutritionniste, paru chez Gallimard, et paraît en même temps La récolte à la lumière du jour, précédée de Œuvres sur l'eau, recueil de poèmes d'Hervé de Bouca, notre invité, donc chez Gallimard. Un grand merci encore d'être venu. Toutes les informations, toutes les références sont à retrouver sur notre site franceculture.fr et la recette du jour également. Pour télécharger cette émission et toutes les autres bonnes choses de la chaîne, rendez-vous sur l'application de Radio France avec la petite équipe des bonnes choses, c'est Amboutata, Fanny Constant, la réalisation et aujourd'hui Ludovic Auger à la prise de son. Nous vous souhaitons une excellente journée à l'écoute de France Culture.